Bonjour à tous. Je trouve que c'est vraiment une bénédiction, une richesse pour notre Église d'avoir des témoignages comme celui qu'on vient d'avoir. Parce que c'est vrai que parfois, quand on n'est pas chrétien, on ne comprend pas forcément ce qui est écrit dans la Bible. On n'est pas forcément touché par un message d'évangile qui nous paraît un peu lointain, qui nous paraît peut-être un peu mystique ou qui est pour les autres, qui n'est pas pour nous. Et c'est vrai que d'avoir un témoignage comme celui qu'on a à avoir, c'est que ça donne quelque chose qui nous parle, qui nous concerne. C'est vrai que quand j'entends le témoignage de Déborah, je peux me dire que moi aussi, dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui croient en des choses plus ou moins occultes, et que j'ai grandi moi aussi dans tout ça. C'est entre guillemets amusant aussi, parce que moi j'ai grandi un peu comme elle, étant l'aîné de la famille, je n'avais pas le choix que d'être un enfant sage. Je suis l'aîné de 6, et j'étais un peu frustré de voir que tous mes frères pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ils faisaient toutes les bêtises possibles et imaginables. Et moi, on me disait qu'il fallait que je sois sage, et donc finalement il est arrivé ce qui devait arriver. À 21 ans, j'ai fait ma crise d'adolescence. J'aurais dû la faire à 12-13 ans, je l'ai fait à 21 ans, et c'était... Je n'ai pas parlé à mes parents pendant plus d'un an, et j'ai fait plein de bêtises. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je sais que mes parents priaient pour moi. Je sais qu'ils m'ont donné une éducation qui fait que je connaissais le Seigneur. Et je sais que le Seigneur était avec moi tous les jours. Et je le remercie vraiment de m'avoir préservé. Je le remercie de s'être révélé à moi. Et c'est vrai que des témoignages comme ça, ça nous prouve vraiment que le Seigneur, il agit en esprit, en vérité, dans notre vie. Ce n'est pas simplement un concept. C'est vraiment de faire cette marche avec le Seigneur. C'est quelque chose qui transforme notre vie. Et il est là à notre porte à nous demander d'entrer, de venir, de vivre cette vie avec lui. Je remercie vraiment Déborah pour son témoignage. Ça me rappelle aussi à moi des parties de ma vie. Et c'est quelque chose qui, je trouve, nous parle vraiment et nous permet de comprendre vraiment qui est Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, je voulais te dire merci pour ce que tu as fait toi-même cette démarche de venir chercher ton enfant Déborah. Tu l'as sauvée, tu l'as sortie de cette incompréhension, cette recherche qu'elle avait, ne savait pas très bien quoi, de cette douleur, cette tristesse aussi. Et Seigneur, c'est vrai qu'on peut voir que tu agis vraiment, que tu es capable de nous consoler dans la tristesse. Tu te réjouis aussi avec nous. Tu fais des miracles dans notre vie et tu vas continuer d'en faire. Tu vas continuer d'en faire dans sa vie, dans sa famille. Tu vas continuer d'en faire aussi dans cette église. Seigneur, parce que ta parole, c'est la vérité, et la vérité, elle transforme. Que tu puisses vraiment permettre que chacun de nous soit chaque jour touché par ta parole, par ta vérité, et que, voilà, que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent, que tu puisses te révéler à eux puissamment, et que pour ceux qui te connaissent déjà, que tu puisses vraiment continuer de nous faire grandir, de nous accompagner dans cette vie, d'être avec nous, parce que nous avons vraiment besoin de ta présence. Dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors pour ceux qui peut-être sont de passage, qui n'ont pas eu l'habitude de venir avec nous tous les jours, les prédications que nous faisons cette année, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, sont sur le livre de Tite, que je vais vous inviter à ouvrir. Donc nous en sommes encore au premier chapitre, et les versets qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui sont les versets 9 et 10. Mais pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ces versets, il faut forcément revenir un peu en arrière pour les replacer dans leur contexte. Et c'est pour ça que nous allons lire dans Tite, au chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je vous laisse ouvrir vos Bibles. Lisons au nom du Seigneur. Donc à partir du verset 5, chapitre 1 de Tite. « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens. » Et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'Église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes, qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Comme vous avez pu le voir sur les premiers versets que nous avons lus, ce passage est tiré du premier chapitre de Tite et il a fait l'objet déjà des prédications les deux dimanches derniers de notre pasteur Blaise, notamment concernant les instructions claires que donne l'apôtre Paul à Tite, dans la manière, sur ce sur quoi les qualités qu'il doit rechercher pour choisir ceux qui seront appelés à avoir des responsabilités, ceux qui seront appelés à être des dirigeants dans les églises en Crète, puisque Tite se trouve en Crète. Donc ce sera des qualités qui sont requises, notamment aussi pour ceux qui ont la charge d'enseigner et d'instruire la parole de Dieu le plus fidèlement possible. Et si je devais résumer les différentes qualités qu'on a citées, qui sont indispensables et qui sont indissociables pour guider Tite dans sa mission, pour choisir des responsables des églises de Crète, je pense que le verset 7 est un bon résumé. Il dit « En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. » Dans ce verset, on voit qu'on a à la fois le critère de sélection qui est extrêmement élevé, sans aucune concession ni complaisance. Comme disait mon frère Kamal, il n'y a pas de poésie, c'est la vérité toute nue. Irréprochable. Et aussi, la raison qui explique le pourquoi de la hauteur de cette exigence, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. En toute honnêteté, en toute transparence, le terme « irréprochable » était un terme qui créait un énorme conflit en moi. Car quand je le confronte à mon caractère, à mes actes, à mes pensées, à mon imperfection, comme n'importe lequel d'entre vous, je me demande tous les jours au Seigneur de prendre pitié de moi. Et dans sa grâce, en Jésus-Christ, de ne pas me tenir rigueur de mes manquements envers lui et envers les hommes. Mais pour autant, mon imperfection ne change pas les critères qui sont définis par Paul dans sa lettre. Elle n'abaisse pas pour autant la barre au plus bas par complaisance. Ce ne sont pas les critères définis par Paul qui doivent être modifiés. Ce serait tordre et détourner la parole. Ce serait faire de la poésie, comme disait mon frère. Ce qui doit changer, c'est nous, c'est moi. Force est de reconnaître que l'objectif que Paul donne à Tite pour le choix des dirigeants est très ambitieux. Il est même plus qu'ambitieux, il est extrêmement élevé. Mais un objectif, même s'il nous paraît d'un point de vue humain hors de portée, il reste toujours à la portée de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, sans le moindre doute. Et je trouve que c'est pour ça aussi que le message de l'Évangile est extraordinaire. C'est pour ça qu'il est une folie pour les hommes qui s'appuient sur leur propre capacité humaine et sur leur pensée humaine, qui sont extrêmement limitées face à la toute-puissance et à la sagesse de notre Dieu. Nous ne pouvons pas avoir d'autre objectif acceptable pour être justifié aux yeux de Dieu qu'une vie sainte et sans défaut. Il n'y a pas d'autre choix. Mais nous savons aussi que nous en sommes totalement incapables par nous-mêmes, par notre propre sagesse, par notre propre force. Et c'est pour ça aussi que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix prend tout son sens, toute son importance. Notre seule chance d'échapper à la condamnation, notre salut, il est en Jésus-Christ et en personne d'autre. Comme il est écrit dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus-Christ nous appelle à le suivre, c'est-à-dire à prendre le même chemin que lui. à l'imiter en toutes choses. Est-ce que vous avez déjà réalisé, quand on dit que Jésus-Christ nous appelle à le suivre, ça veut dire finalement, ben, faire comme lui. Ce n'est pas simplement marcher derrière lui et qu'il ben, fasse des choses et que nous, on en fasse d'autres. Le suivre, c'est finalement se conformer à ce que lui fait. Ce n'est pas simplement marcher derrière en faisant autre chose. Jésus-Christ nous appelle à le suivre, à le prendre comme exemple, comme modèle. Jésus-Christ nous appelle tous à être irréprochables. Le message de l'Évangile, il n'est pas d'être sauvé par Jésus, pardonné de tous nos péchés, tout en faisant n'importe quoi. Le message de l'Évangile nous dit que tout est accompli en Christ, c'est vrai. Personne ne peut revendiquer une quelconque gloire ou une quelconque responsabilité dans l'accomplissement de son salut, en dehors de Christ. Mais si notre salut est en Christ, cela veut dire que nous appartenons à Christ. Cela veut dire que notre identité est en Christ, comme l'a mentionné ma sœur Déborah tout à l'heure. Notre modèle de vie au quotidien, c'est Christ. C'est l'exemple de la vie de Christ sur terre qu'il nous a donné en venant jusqu'à nous. Et lui, il a été totalement irréprochable en toutes circonstances. C'est vrai, nous avons hérité d'Adam une nature pécheresse. Et Christ nous appelle à une vie nouvelle qui, elle est conforme à la sienne. C'est-à-dire parfaite, irréprochable. De sorte que le fait que nous soyons parfaitement conscients aujourd'hui, à cette seconde même que nous sommes imparfaits, ne nous dispense pas d'avoir comme but principal dans notre vie de ressembler à Christ et de devenir comme lui, irréprochable en toutes circonstances. Christ est en tout point parfait et sans le moindre défaut. Et de la même manière, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, au verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune concession sur le fait que tout être imparfait que nous sommes par nature, héritier du péché d'Adam, nous devons néanmoins avoir comme modèle Jésus-Christ. Il est descendu sur terre, il s'est fait homme et il a vécu une vie parfaite qui est un exemple pour nous, sans le moindre péché du début jusqu'à la fin. Et donc du coup, Paul n'est pas si révolutionnaire que ça quand il énonce ces différentes qualités qu'il faut pour les dirigeants d'église. Il est simplement en conformité avec l'enseignement de Jésus. Paul demande à titre de choisir des dirigeants dont la vie donne des gages visibles que leur identité est effectivement en Christ. Et bien qu'ils soient imparfaits en tant qu'humains, leur vie doit démontrer de manière visible qu'ils ont sincèrement à cœur de suivre Jésus-Christ en toutes choses, avec l'aide du Saint-Esprit, puisque par nous-mêmes, nous en sommes bien incapables. Ça n'abaisse pas le niveau d'exigence de Paul, qui reste très très élevé. Mais la parole de Dieu nous enseigne que ce qui est inaccessible pour nous, en nous appuyant sur nous-mêmes, est en revanche parfaitement atteignable par la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que chaque jour, nous lui fassions de plus en plus confiance pour le laisser nous transformer en profondeur, permettant ainsi que notre vie soit de plus en plus en conformité avec sa parole. Mais c'est aussi, mais ça, cette transformation, c'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce qui est imméritée. Cette transformation ne dépend pas de nos qualités propres. Cette transformation s'appuie sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Néanmoins, il faut être réaliste, c'est vrai. Je me questionne personnellement par rapport à la distance qui me sépare encore de la description qui est faite dans ce passage concernant tous les défauts à éviter et toutes les qualités qui sont requises pour être un responsable, pour être un dirigeant dans l'Église. Et pour autant qu'il me soit demandé de me juger moi-même, je ne suis pas tout ça. J'en suis même très loin pour certains défauts ou qualités. Mais j'ai aussi confiance en mon Seigneur. Je veux croire que notre Dieu est souverain, que sa sagesse dépasse mon intelligence humaine et qui mène à bien ce plan merveilleux qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, en nous transformant de gloire en gloire tout au long de notre vie. Dès l'instant où n'importe lequel, moi ou vous, prend la décision de changer de vie, de changer de maître, de suivre Jésus-Christ, de mourir à son ancienne vie pour ressusciter à une vie nouvelle avec Christ, alors Dieu nous fait grâce du pardon de nos péchés, mais il nous fait grâce aussi de la manière dont il fait de nous chaque jour des lumières dans les ténèbres de ce monde. Ça, c'est une grâce de notre Seigneur. C'est lui qui nous transforme. Et il y a un contraste. Il y a une opposition totale, une totale incompatibilité entre notre ancienne nature sans Christ et notre nouvelle nature avec Christ. Et cette opposition se manifeste dans tout ce qui fait autorité dans notre vie. Soit c'est Christ qui est notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, le chemin qui mène au Père, la vérité et la vie. Soit c'est son ennemi, celui qui est rebelle à la parole, le chemin qui mène à la perdition, loin du Père, le mensonge et la mort. Et on retrouve cette même opposition sans concession dans notre texte ce matin, entre l'attachement à la parole de Dieu, conforme à un enseignement authentique, et les idées véhiculées par les contradicteurs qui refusent de se soumettre à la vérité. Au verset 7, dans ses instructions à Tite sur les critères de sélection des futurs dirigeants des églises en Crète, comme je le disais au départ, l'apôtre Paul cite 5 défauts à éviter, et ensuite, au verset 8, il cite 6 qualités qui sont nécessaires de discerner pour ce choix. Et enfin, au verset 9, qui nous intéresse particulièrement ce matin, il cite une 7e qualité, l'attachement fidèle à la parole, qui va en plus compléter par des commentaires. Donc je relis le début du verset 9. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. La parole certaine pour nous aujourd'hui, quelle est-elle? C'est, je pense, la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. C'est la manière dont nous le voyons aujourd'hui, même si à l'époque, c'est vrai que la Bible n'existait pas encore sous cette forme. Car pour nous, la parole de Dieu dans la Bible, elle est la seule vérité. Elle seule va se réaliser d'une manière certaine. Car notre Dieu seul et aucun autre a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel par sa volonté. Mais on voit aussi que Paul précise que cette parole est conforme à l'enseignement reçu des apôtres. Cet enseignement qui est lui-même fondé sur l'enseignement qu'ils ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que ces deux interprétations de la parole de Dieu dans la Bible et de l'enseignement de Jésus-Christ ne sont pas du tout contradictoires, dans la mesure où Jésus l'a dit lui-même. Il n'est pas venu sur terre pour remettre en cause les Écritures au moment où il était là, mais au contraire, pour les accomplir. Et c'est écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, que je vais vous lire. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à que tout se réalise. » Tout le contenu de la Bible est la parole de Dieu. Et toute la Bible trouve son sens dans l'accomplissement de la vie de Jésus-Christ et dans son enseignement. D'un autre côté, nous savons aussi que Jésus-Christ est souvent désigné comme étant la parole. Et que lui aussi, de la même manière que Dieu, il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Car lui-même, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu à part entière. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean commence de la manière suivante, dans Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et plus loin, verset 14, il est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc on voit bien que la parole et Jésus-Christ, finalement, nous amène, c'est la même personne. Notre attachement à la parole de Dieu, à la parole certaine, et notre attachement à Jésus-Christ sont deux choses qui vont complètement de pair. Il ne sert à rien de connaître la Bible par cœur, de la Genèse à l'Apocalypse, si on ne s'attache pas à Christ. Et sans Christ, la Bible finalement n'est qu'un livre qui ne va pas transformer notre vie. Seul Christ peut revendiquer d'avoir eu un parfait attachement à la parole, sans faille au cours de toute sa vie terrestre. Et nous, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie tout au long de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. S'attacher fidèlement à la parole certaine et par conséquent aussi s'attacher à Christ. S'attacher fidèlement à la parole certaine, d'une certaine façon, c'est de vouloir nous conformer à la vie de Jésus-Christ. Tout chrétien doit avoir l'envie sincère de se conformer à la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en surplus, pour un dirigeant d'église, il apparaît dans ce passage que ça lui permettra d'encourager les autres membres selon l'enseignement authentique et de s'opposer à des contradicteurs qui veulent détourner le sens de la parole certaine. L'exigence de se conformer à la vie de Jésus-Christ est forcément plus forte et encore plus impérative pour un dirigeant dans l'Église. Et c'est vrai, comme il est écrit au verset 9, « Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. » L'enseignement de Jésus-Christ se suffit à lui-même, pour édifier, pour exhorter, pour encourager l'assemblée. Et en s'appuyant sur cet enseignement authentique, sans compromission, par rapport à la vérité de la parole, on se rend compte qu'on peut parfois être amené à se confronter à des contradicteurs, des personnes qui auraient envie de prendre des raccourcis ou de modifier des choses selon ce qui les arrange. Mais la vérité, elle se trouve dans l'attachement à la parole en conformité avec l'enseignement de Jésus-Christ. Tout autre enseignement doit être fermement dénoncé parce qu'il peut conduire à des conséquences très graves. Et les premiers responsables de la dénonciation de toute déviation, de tout détournement mensonger, de tout faux enseignement, sont ceux qui portent la responsabilité de la direction et de l'enseignement dans l'Église. Mais je pense que cette dénonciation ne doit pas s'appuyer sur un jugement de valeur ou sur ce qu'on appelle un délit de faciès ou une appréciation humaine. Au contraire, seule l'authenticité de l'enseignement, basée sur la parole de Dieu, mais va créer naturellement une situation de conflit d'un point de vue théologique avec les contradicteurs, notamment ceux qui détournent le contenu ou le sens de la parole pour leur bénéfice personnel. Toutes les théories plus ou moins élaborées qui contredisent ou simplement déforment le message authentique de l'Évangile doivent être fermement dénoncées par chacun et plus particulièrement par ceux qui ont la responsabilité d'enseignement dans une Église. Alors, le contexte de ce texte de l'apôtre Paul qui donne des instructions à Tite pour choisir les dirigeants d'Église, il faut quand même en tenir compte. Si on veut l'appliquer à nous, dans notre Église, il faut déjà comprendre dans quel cadre ça a été dit, dans quel contexte. Et je pense que c'est important, et je pense que c'est toujours important quand nous lisons la Bible, de comprendre dans quel cadre et dans quel contexte les choses sont dites. Donc je vais revenir dans le contexte particulier de cette lettre de Tite. Les instructions qui sont données à Tite sont données pour faire le bon choix de dirigeant dans les églises de Crète. En fait, qu'est-ce qui se passe en Crète? C'est un contexte d'églises qui sont en général très nouvellement formées. En fait, c'est en règle générale des nouveaux chrétiens avec un arrière-plan païen. Et c'est des églises qui sont encore probablement des petites églises de maison, des églises qui ne sont pas complètement structurées. C'est des personnes qui viennent de se convertir, qui sont dans des petits groupes. Et donc, on comprend que la façon dont la parole de Dieu est vécue, elle est vécue un peu dans, entre guillemets, le désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme chez nous, un cadre bien défini, un lieu avec des dirigeants, avec une organisation qui est déjà prévue d'avance. Et ça donne toute l'importance aux instructions que Paul donne à Tite, puisqu'il se rend compte qu'effectivement, il y a des chrétiens qui sont en Crète, mais qu'en termes d'organisation, en termes d'ordre, ben, il n'y a pas vraiment quelque chose qui soit bien défini, et ça laisse la place à un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes opportunistes qui vont profiter de cet ensemble, de cette absence de cadre. Donc les chrétiens de Crète, finalement, ils cumulent beaucoup d'inconvénients. Ils cumulent l'inconvénient d'être des chrétiens relativement jeunes, sans expérience. Ils cumulent aussi l'inconvénient d'être dans une société assez particulière qui est très, très permissive, où vraiment la manière dont les gens vivaient en Crète était vraiment complètement contraire à la parole de Dieu. Et ça, c'est leur arrière-plan culturel. Ils cumulent le fait de ne pas avoir une organisation qui soit bien définie par la force des choses. Hein, il faut toujours un début à tout. Et tous ces facteurs font que c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup d'opportunistes qui vont essayer de profiter de ce cadre-là à leur propre profit, je dirais. Surtout si ces personnes sont mal intentionnées. Comme il est écrit au verset 10 de notre passage, « Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. » C'est clair que d'une manière générale, les faux enseignements détournent ou concrétisent la parole de Dieu, ils auront toujours plus de facilité à se répandre auprès de nouveaux chrétiens, auprès de communautés chrétiennes qui sont relativement récentes. Et plus facilement encore, et c'est là que la difficulté devient vraiment importante, si ce faux enseignement vient de l'intérieur, vient de personnes qui se disent chrétiennes, qui fréquentent les églises, mais c'est encore plus difficile à discerner et à contrer. Et c'est précisé dans notre texte que notamment, ce faux enseignement venait de la part de personnes d'origine juive, donc de personnes qui connaissaient très bien, a priori, de par leur arrière-plan culturel, les Écritures, les prophètes. Ça leur donnait un surplus de crédit et d'autorité auprès de ces chrétiens nouvellement convertis, donc relativement peu éduqués par rapport aux traditions juives. Ils étaient en mesure de détourner subtilement le sens des enseignements des apôtres à leur propre profit et au détriment de ceux qui les écoutaient. Alors, comment, dans ce cadre-là, on peut arriver à discerner ce qu'est un faux enseignement? Alors, l'apôtre Paul, quand même, dans ses instructions à Tite, il nous donne quelques éléments pour nous guider dans cette identification. Et la première chose qu'il dit à Tite, c'est « Il refuse de se soumettre à la vérité ». Cela suppose que des personnes qui apportent un faux enseignement ne le font pas par maladresse ou par inadvertance, se conformer à la parole de Dieu, mais en se trompant. Au contraire, de manière délibérée, il tourne le dos à la vérité en toute connaissance de cause. Et on verra dans les prochaines prédications que ce détournement est souvent motivé par la recherche d'un profit personnel au détriment de ceux qui les écoutent et leur donnent du crédit. Et la connaissance est un élément très important ici, puisqu'il est fait état d'un refus de soumission à la vérité. La vérité est connue de ces personnes, puisqu'ils ont reçu un enseignement de la part de Paul, notamment, ou de ses collaborateurs, mais ils s'en détournent volontairement, consciemment et de façon préméditée. Donc ça, c'est une des caractéristiques de faux enseignants, qui est vraiment de le faire de façon délibérée, tout en sachant quel aurait été le bon enseignement. L'autre caractéristique que Paul évoque pour Tite, c'est qu'il tourne la tête aux gens par leur discours creux. Et ici, on retrouve un autre élément de contexte de la Crète, puisque quand on parle de Crète, on parle d'une île grecque. Donc c'est un contexte où, dans la société, les grands discours savants sont très, très à la mode. Ils sont très valorisés, notamment de la part de philosophes improvisés qui établissent des théories un peu fumeuses et qui les exposent devant tout le monde. C'est quelque chose qui, dans la société, a beaucoup, beaucoup de valeur, de créer des choses très, très complexes que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais ça, les gens, ils se valorisent aussi de cette façon. Et là, Paul les qualifie de discours creux. Méfions-nous, nous aussi, aujourd'hui, de tous ces beaux discours qui peuvent s'appuyer sur notre arrière-plan culturel. C'est une bonne façon que des personnes peuvent avoir de nous tromper, de nous séduire. Nous sommes toujours beaucoup plus sensibles et beaucoup plus vulnérables à écouter des enseignements qui déforment la parole de Dieu en s'appuyant sur nos traditions, en s'appuyant sur notre arrière-plan culturel. Ça nous donne, en fait, ça nous rend beaucoup plus vulnérables et on est plus enclin à croire ce qui est dit, même quand ce n'est pas la vérité. Mais bien sûr, il n'est pas dit que toutes nos traditions sont mauvaises. Mais à un moment donné, si certaines de nos belles traditions s'opposent de manière frontale à la vérité de l'Évangile authentique de Christ et de ses apôtres, ben, notre démarche doit être de combattre fermement son influence dans notre vie quotidienne. Nous avons tous des arrière-plans culturels, mais nous sommes tous, à certains moments, amenés à faire des choix selon que notre arrière-plan culturel s'oppose ou pas à la vérité de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose dont nous devons être conscients dans notre vie. Évidemment, nous n'allons pas devenir du jour au lendemain une personne totalement transformée, débarrassée de tout ce que nous étions avant et que nous avions en contradiction avec la parole de Dieu. Mais nous avons néanmoins envie de faire ce cheminement tous les jours avec Christ et d'être transformés de jour en jour, d'identifier des choses dans notre vie qui ne lui appartiennent pas encore et de les abandonner jour après jour. C'est un combat spirituel que nous devons mener pour nous-mêmes. Et ça signifie aussi que chaque jour, notre vie est un peu plus tournée vers l'essentiel. Que notre attachement à la parole certaine grandit chaque jour. Que notre ressemblance avec Jésus-Christ grandit chaque jour. C'est ça qui est vraiment le plan que notre Seigneur a pour nous quand nous lui appartenons. Le plus important est de ne pas s'égarer, de ne pas laisser notre vie être détournée par ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais au contraire, d'avoir en vue de progresser dans le sens de ressembler chaque jour un peu plus à Jésus-Christ. Mais il peut arriver que les choses ne se passent pas vraiment exactement comme on voudrait. Il peut arriver qu'on trébuche, il peut arriver qu'on se trompe, il peut arriver qu'on prenne de mauvaises décisions et qu'on a l'impression que notre progression non seulement s'est arrêtée, mais qu'on est revenu des années en arrière. C'est des choses qui arrivent concrètement dans notre vie. Il n'empêche qu'il sera toujours temps de reprendre notre marche en avant avec notre Seigneur. Notre Seigneur est conscient que nous ne sommes pas parfaits. Il est conscient que nous pouvons à certains moments nous tromper. Mais nous, c'est vrai que nous devons avoir en vue, quel que soit l'état où nous sommes aujourd'hui, de nous attacher à la parole, et de prendre notre Seigneur Jésus-Christ comme exemple parfait, comme modèle, et de nous attacher à lui de plus en plus chaque jour, de le laisser nous transformer, de laisser le Saint-Esprit nous posséder de prendre la direction de notre vie. Et le troisième élément qui est évoqué par Paul dans le verset 10, c'est celui-ci. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Et là, clairement, Paul pointe aussi du doigt le fait que le danger vient souvent de l'intérieur. Il arrive très souvent par des personnes qui peuvent nous impressionner, en particulier des personnes à qui on donne une importance particulière, souvent en raison de leurs connaissances qui sont très, très importantes, de la Bible notamment, les connaissances des Écritures, les connaissances des traditions. Et c'est un peu le cas pour les chrétiens d'origine juive vis-à-vis des chrétiens d'origine païenne qu'il y avait en Crète. Eux, ils avaient forcément une connaissance plus ancienne de la loi et des prophètes. Donc, ils avaient une sorte d'avantage sur les autres. Et certains pouvaient être tentés de l'utiliser pour de mauvaises raisons. Mais le problème se pose lorsqu'il s'agit de personnes d'origine juive qui, elles, ne reconnaissent pas du tout la royauté de Christ, qui ne croient pas en la divinité de Christ, qui ne croient pas à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et qui, en plus, ont à cœur de tirer profit de la situation pour leur profit personnel. Ils peuvent bénéficier, c'est vrai, de l'aura de faire partie du peuple de Jésus-Christ, du peuple juif, et le fait d'avoir ces connaissances supérieures et induire en erreur les autres à leur profit personnel. On peut le transposer aussi pour nous, dans notre vie d'église aujourd'hui. C'est vrai que pour nous aussi, souvent, le plus grand danger, il peut venir de l'intérieur. Il peut venir de ces personnes qui ont une certaine autorité en raison de leur connaissance approfondie de la Bible, qui sont capables de citer n'importe quel verset par cœur, aussi en raison de peut-être d'une grande piété apparente. Ces personnes peuvent tirer parti de cet avantage pour nous détourner de la parole de Dieu de façon subtile, à leur propre profit, et égarer des fidèles par des raisonnements qui sont basés sur des théories qui ressemblent un peu à la parole de Dieu, mais qui en fait sont totalement erronées. Je peux comprendre que dans notre église à Brunois, nous ne nous percevons pas vraiment comme une toute nouvelle église de Crète. On se dit qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes problèmes, les mêmes caractéristiques, sans organisation, sans connaissance de l'histoire du peuple juif. Et c'est pour ça que je me suis dit que peut-être que l'exemple des églises de Colosse pourrait être plus parlant pour nous. Parce que dans l'Épître aux Colossiens, Paul a aussi à cœur d'encourager les chrétiens à tenir ferme dans leur foi et à se préserver des faux enseignements. Mais là, on est déjà dans un cadre qui est plus établi, plus organisé, qui ressemble beaucoup plus à notre Église aujourd'hui. Et c'est utile de mettre en parallèle les recommandations que fait Paul pour des églises très récentes comme celle de Crète et les recommandations qu'il fait pour des églises un peu plus anciennes. Je vous invite à lire quelques versets dans le livre de Colossiens au chapitre 2 pour faire justement ce parallèle. Donc dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, c'est Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Parole du Seigneur. L'église de Colosse est elle aussi, comme celle de Crète, composée en grande partie de païens convertis. Et en plus, cette église était dans un état dont Paul pouvait se réjouir. Donc on est dans un cas d'une église qui est mieux établie, qui est bien organisée et qui en plus produit du fruit de repentance. Mais elle se trouvait malgré tout menacée. Menacée comme toutes les autres églises d'Asie par l'intrusion de fausses doctrines. Ceux qui propageaient ces erreurs n'étaient pas des philosophes juifs restés étrangers au christianisme. Non, c'était plutôt des chrétiens judaïsants. Donc ça venait de l'intérieur. Encore attachés à leur tradition, à l'observation des préceptes concernant les aliments, les sabbats, les fêtes, la circoncision, etc. Et ces chrétiens judaïsants, je pense qu'ils auraient une bonne presse en Crète parce qu'ils trouvaient l'évangile trop simple, trop humiliant pour leur orgueil. Ils rajoutaient des montages de théories très savantes et complexes qu'on pouvait assimiler à l'époque à de la philosophie. Ils rendaient une sorte de culte aux anges, ils attribuaient une grande puissance à tous ces anges, et certains considéraient que Christ n'était juste qu'un ange parmi d'autres. Bref, ils déformaient complètement la parole de Dieu, qu'ils trouvaient trop simple, en rajoutant plein de choses totalement farfelues. En résumé, ils s'écartaient complètement de l'authenticité du message, de l'évangile et de la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la déformation de la parole de Dieu ne prend pas forcément exactement cette forme-là. Mais on voit que dans une église comme celle de Colosse, qui ressemble beaucoup à la nôtre, on a exactement le même danger. Et donc nous devons vraiment nous en préoccuper. C'est vrai qu'aujourd'hui, la déformation du message de l'évangile, elle peut prendre parfois des formes un peu plus subtiles que ce qu'on a pu observer à Colosse. Mais les dégâts sont les mêmes. Parce que des enseignements qui sont faux, qui semblent se baser sur la Bible, ils vont finalement induire en erreur des personnes qui recherchent Jésus-Christ et les emmener à être ailleurs qu'avec Christ. Notre devoir, c'est de nous opposer fermement à tous les faux enseignements auxquels l'Église peut être confrontée, et plus particulièrement à ceux qui renient l'œuvre parfaite de Christ, sa mort et sa résurrection par lesquelles il nous a assuré une entière victoire sur le péché et la mort. Tout est accompli en Christ, il n'y a rien à rajouter. Je voudrais aborder aussi un autre sujet. C'est vrai, il existe malheureusement en France et à l'étranger beaucoup d'églises où les dirigeants eux-mêmes n'ont pas du tout comme intention de sauver des vies, mais qui ont comme intention principal de détourner la parole de Dieu à leur profit. Notamment, dans la plupart des cas, c'est un profit matériel ou un pouvoir d'aliénation sur les personnes. Je pense qu'il faut vraiment le redire que ce type de communauté doit être absolument évité. Et il est de notre responsabilité d'avoir ce discernement dans le choix de la communauté que nous fréquentons en nous appuyant sur la parole. Je ne parle pas de la forme, mais du fond, de l'authenticité de la parole qui est enseignée, dans le but de rendre gloire à Dieu et de proclamer un évangile authentique. Seule la vérité permet de toucher et de transformer des vies et des cœurs en profondeur. Seule la vérité permet de vivre une vie renouvelée. Mais c'est vrai que sur la forme, il peut arriver qu'on se sente mieux intégré dans une communauté plutôt qu'une autre, plus à l'aise selon le type d'organisation qui est en place. Et cela, ça dépend aussi, c'est vrai, souvent de notre arrière-plan culturel à chacun. on aura tendance à fréquenter une communauté plutôt qu'une autre, parce qu'on a peut-être plus la possibilité de nouer des relations proches avec des personnes et de nouer des relations qui sont encourageantes avec les autres membres. Mais reste que l'essentiel, c'est que l'enseignement qui est apporté doit être vrai et authentique, c'est-à-dire conforme à l'enseignement de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre et relayé de manière fidèle par ses apôtres pour répandre la bonne nouvelle à travers le monde. En guise de conclusion pour le message de ce matin, je voudrais juste rappeler quelques éléments. L'apôtre Paul a parfaitement conscience de la jeunesse des communautés d'église en Crète et du besoin qu'il y avait d'établir des dirigeants qui soient vraiment fidèles à la parole, notamment pour s'opposer aux dégâts que peuvent créer certains opportunistes qui profitent de la jeunesse, de la candeur, du manque d'éducation religieuse des nouveaux croyants. L'exigence des critères de sélection qui sont énoncés par Paul est très élevée. Je dirais même qu'elle est extrême, sans aucun compromis, puisque le terme « irréprochable » est utilisé même à deux reprises. Mais cette exigence est finalement parfaitement conforme à l'exigence de Jésus-Christ lui-même, cette exigence qu'il exprime dans son enseignement pour tous ceux qui veulent le suivre. Un moyen efficace que l'apôtre Paul a trouvé pour faciliter le discernement de bons dirigeants était de pouvoir observer de manière visible dans la vie de ces personnes qu'ils ont vraiment à cœur de se conformer à la parole de Dieu et que cela produit du fruit de repentance visible dans leur vie. Ayons tous à cœur de rester fidèlement attachés à la parole certaine, sans aucune déformation, la parole qui est conforme à ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ incarne lui-même la parole. Il est le modèle parfait. Et notre identité en Christ nous pousse à vouloir lui ressembler en tout point dans notre vie de tous les jours. Et c'est le Saint-Esprit qui mène à bien cette vie, cette transformation en nous, en chacun d'entre nous, de nous transformer de gloire en gloire pour vraiment nous permettre de grandir dans notre attachement qui est fidèle, de plus en plus fidèle à la parole certaine. Et les dirigeants d'église sont appelés à apporter un enseignement qui est authentique, en tout point conforme à la parole. La parole de Dieu ne peut être contredite ou même déformée. Elle est en tout point parfaite et c'est elle qui fait autorité dans notre vie. Nul n'est besoin d'aller chercher la sagesse et la sainteté hors de Christ, dans des spéculations, dans des imaginations qui sont humaines et qui viennent souvent en contradiction d'un enseignement authentique. Au contraire, je vous exhorte et je m'exhorte moi-même à redoubler de vigilance pour ne pas nous égarer en succombant à l'attrait de théories qui sont subtiles ou mensongères, et qui semblent s'appuyer sur la parole, mais qui la déforment complètement au profit de certains. Que notre Seigneur nous accompagne et nous bénisse dans cette volonté de lui rester fidèle en toutes choses et de nous conformer à sa vie pour devenir irréprochables. Amen.